patria, patriarca, 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 patriarca.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon au féminin.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Dans la pièce, s'est glissé dans son lit sans un mot, l'a déshabillé, caressé, pénétré, a éjaculé puis s'est endormi. Aucune parole, que des soupirs. Elle, flattée qu'un homme si beau puisse la désirer. Elle se dit que si ça se reproduit, elle lui demandera de mettre des capotes. Ça s'est reproduit mais elle n'a jamais osé en parler. Elle a pris la pilule du lendemain et a espéré très fort qu'il n'aurait rien. Dégoût d'elle-même, saleté d'homme.
C'est tout froid, j'ai pas de sensation. C'est dégoûtant. Elle se promet que c'est la dernière fois.
Pas du tout envie de lui tailler une pipe sans capote. Pas du tout envie de lui dire d'en mettre une. Tant pis, il aura rien. Je me retourne et entreprends de m'endormir.
Les capotes, c'est surtout des situations burlesques, à descendre à poil dans le couloir glacé ou chercher morte de rire dans la salle de bain où elles sont planquées et s'il n'y en a pas, ben tant pis, on fait gaffe.
On est le lendemain, elle le raccompagne. Ça avait été chouette la veille, sauf que la capote avait craqué. Il avait ronflé toute la nuit, elle n'avait pas fermé l'œil, comme si elle était toute seule face au plafond blanc. Dans la voiture, elle le regarde. Il est pressé, déjà en retard sur sa journée. Petit sourire en coin, il lui dit « Bon ben, je t'aurai plus plus tard, hein ?» Elle a envie de vomir, de lui cracher à la gueule son stress qui monte du honte. « Et c'est qui gère, là? T'as pas le temps de l'acheter avec moi ?» Elle redémarre la voiture, le pose devant la pharmacie. Elle le regarde. Il entre dans le magasin. Elle attend. Il revient et lui tend la boîte, toujours son même sourire en coin. Elle a envie de lui donner une claque. Elle dit merci. Au moins cette fois, c'est lui qui a supporté le regard douteux de la pharmacienne du coin.
Avec lui, les capotes, c'est comme une évidence, à chaque fois depuis la première fois, mais seulement au dernier moment. Et avant, c'est quand même prendre des risques.
Il faut savoir qu'elle est en voyage dans un pays où elle ne parle pas trop la langue, qu'elle connaît cette fille depuis une semaine et que c'est la première fois qu'elle a une relation sexuelle avec une fille. Bref, elle n'est pas super à l'aise, mais elle est super contente. Elle sait qu'elle est lesbienne depuis belle lurette, alors elle a lu plein de trucs sur la sexualité lesbienne et sur le safe sex. Alors elle connaît le plan. Je coupe une capote dans la longueur et paf, j'ai une digue dentaire. C'est con comme nom, ça lui fait plutôt penser à un gros truc en plastique que les boxeurs mettent dans leur bouche pour se protéger des coups. Mais là, cette fille, sans trop de complexe, et tout naturellement, descend le long de son corps pour lui faire un cuni, et puis, dans sa tête, c'est le bug. C'est pas ce qu'elle a appris. Normalement, elle doit se protéger. Mais elle ne lui pose aucune question, et elle n'a rien osé dire. Impossible de savoir ce que l'autre pense ou veut. Peur de la rendre suspicieuse, culpabilité dans le ventre, et connaissance du futur stress du test. Avec les gars, c'est plus simple. Avec ce risque d'être en cloque, la capote est automatique et beaucoup plus simple à exiger.
Waouh, elle a l'air de gérer grave, et puis c'est presque plus agréable avec une digue. C'est elle qui le dit. Elle aime pas parce qu'elle a moins l'odeur de son sexe dans son nez. Quand j'ai mes règles, est-ce que ça change quelque chose pour le safe sex? En tout cas, ça ne les dérange pas. Juste, ça tache les draps, et il y a du sang sur la peau, et ça donne un goût bizarre. Ma copine me réplique par contre que parfois elle a ses règles pendant presque un mois et que dans ces cas-là, son mec il veut pas la toucher durant tout ce temps.
Est-ce qu'elle se protégeait pour pas tomber enceinte ou pour pas choper d'IST? Je parle au téléphone avec elle et son seul stress, c'est son oubli de pilule, un peu avant cette relation sans protection. Je rêve, ça me saoule, et je lui dis que l'avortement existe, mais pas le traitement contre le VIH et l'hépatite C, et qu'elle ferait mieux de se faire dépister. Finalement, elle va encore plus mal, et j'ai l'impression d'avoir appuyé sur la tête de mon amie qui allait déjà pas bien.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger 100% latex ce soir. Donc ce soir, Ernest et moi, on vous a concocté une petite émission sur la prévention, enfin sur la prévention, plus exactement sur notre rapport à nous les meufs, à ces bouts de latex qu'on place des fois, enfin qu'on se dit qu'on devrait placer entre nos corps et les corps de nos partenaires. Pour se protéger des IST, pour gérer nos fécondités, etc. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'on a beau connaître beaucoup de choses sur comment se protéger, pourquoi se protéger et tout, on se rend compte que souvent, c'est pas si simple dans nos sexualités de négocier avec nos partenaires ou même de leur en parler, de se protéger et tout ça. Des fois, c'est pas facile, quoi. Alors, on a un peu enquêté autour de ça, quoi. On a cherché à savoir et à discuter avec des amis ou avec des filles qu'on connaissait ou pas, de c'était quoi leur rapport à elles, à tout ça, pour essayer de réfléchir et puis d'avancer, quoi.
Alors, pour avoir un peu de la matière, on a organisé, dans le cadre d'un groupe qui fait régulièrement des ateliers d'écriture, on a fait un atelier d'écriture sur ce thème-là, notre rapport au latex, notre rapport à la contraception, comment on gère le safe sex, des choses comme ça.
Et c'est le fruit de cet atelier d'écriture que, par exemple, on vient d'entendre.
Voilà, donc exactement.
On a lu ensuite, on a demandé à des copines de lire les textes qui avaient été écrits. Et pour pouvoir vous les passer ce soir.
Voilà, on a fait des petits montages avec toutes les lectures. On en rentendra encore au cours de l'émission. Et puis ensuite, on a fait aussi une discussion où on était cinq et qu'on a enregistré et qu'on a monté. Et on va aussi vous passer des morceaux du montage du coup de cette discussion.
Parce que l'idée donc de ce soir, c'est bien de, enfin l'idée, c'est, ça n'est pas de faire une émission sur la prévention, de vous expliquer quelles sont les différentes IST, infections sexuellement transmissibles, qu'est-ce que c'est que le safe sex. Le safe sex, c'est le sexe protégé en anglais, le sexe sûr. Donc c'est plus sexy de dire safe sex, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est le sexe où on se protège plus ou moins parfaitement des différents risques liés aux infections sexuellement transmissibles. Donc le but, nous, ce soir, c'est pas de vous expliquer l'herpès, le papillomavirus ou le VIH/SIDA ou etc., ni de vous faire un cours sur la digue dentaire et le préservatif, mais c'est bien de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que nos rapports dans nos vies à tout ça.
Et puis ensuite, on a aussi fait une autre tentative pour cette émission, c'était un micro-trottoir.
Ah oui, c'est vrai.
Ça a complètement foiré, il y avait un vent terrible. Alors pour
il
le micro...
Il faisait froid.
Enfin, c'était n'importe quoi, et les gens dehors, ils avaient juste pas envie d'être dehors, alors ils couraient chez eux, et nous, on leur courait après. On a eu deux micro-trottoirs, un avec le tram qui fait « ouh » toutes les 30 secondes, parce qu'on était à côté de la voie de tram, et l'autre qui était pas très utilisable non plus, où la personne était hyper pressée, on l'attendait. Enfin...
Bref, c'était pas une grande réussite, on avait envie de vous le raconter, parce que c'est vrai qu'on avait envie aussi de saisir des paroles d'anonymes pris dans la rue et tout, sur justement leur rapport à ça. Et puis on s'est rendu compte aussi que c'était quand même vraiment pas évident de comment poser les questions sur « Alors vous, les capotes, c'est facile ou pas dans votre vie à des totales inconnues ?» Enfin, on a bien rigolé.
Mais ça, c'est sûr.
Bon, peut-être on commence à écouter la première discussion.
Voilà, alors c'est la partie de la discussion enregistrée qui parle plus de quelles pratiques... Pour quelle pratique, quel risque existe, et pour quel risque, quelles contraintes ça pose de se protéger, et pourquoi on se protège ou pas. Voilà, c'est un peu un montage là-dessus qu'on peut écouter maintenant.
Vous, par exemple, dans votre vie, vous avez l'impression que vous avez été suffisamment éduqué sur les questions de prévention? Comment vous avez appris à utiliser des capotes?
Je sais pas du tout.
J'en ai parlé avec ma mère.
Parce que moi, j'ai pas eu ça. Ma mère, elle m'a parlé de comment on donne des enfants, par exemple, truc de base, quoi, mais elle m'a jamais parlé de prévention. Enfin, du coup, je pensais plutôt à l'école, quand j'étais au collège, mais j'en garde pas un grand souvenir.
Moi, je crois que c'est à la télé. Enfin, pour moi, le sida, c'est la télé. Le fait que ce soit important de se protéger, tout ça, machin, ma mère, enfin mes parents, ils m'ont transmis ce message, mais par exemple, elle m'a pas déroulé un préservatif sur une banane. Mais par contre, je l'ai vu faire à la télé, tu vois, par exemple.
Moi, je crois que c'est à l'école.
Mais je me souviens aussi que ma mère m'a acheté un bouquin du planning familial qui expliquait toutes les... maladies sexuellement transmissibles, et c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait pas que le sida. Mais tu vois, ça c'était le genre de truc, ça devait être la journée des femmes, et on était allé à un stand machin, et puis oh, il y avait des livres, et elle m'a dit ah bah tiens, allez. Mais bon, au final, tu vois, je me dis, les messages de prévention, moi ils me disaient il faut utiliser des capotes, mais comment et pourquoi et quels sont les risques exactement des différentes pratiques sexuelles et tout ça, laisse tomber.
Je pense que ma mère était pas hyper à l'aise d'amener ça, et puis moi j'étais pas hyper à l'aise d'en parler avec elle. Donc, du coup, je crois que j'en parlais plus aussi avec des copines qui avaient des infos, ou avec après les des fois je me sentais plus en confiance sur certains trucs avec, avec des gens au collège.
Je pense que les trucs après de sur les différentes infections et maladies existantes et tout ça, j'ai l'impression de l'avoir plus moi cherché quand j'ai commencé à m'en préoccuper auprès de mes médecins, auprès de... Mais du coup, à l'âge où j'ai commencé à avoir une sexualité, il n'y a pas eu d'avant où j'allais plus chercher ces infos-là.
Je me rappelle d'un téléfilm avec une jeune fille qui tombait enceinte et la mère qui l'engueule en lui disant « Mais comment tu t'as fait avec... On fait que vous parler de préservatifs tout le temps sur un mode hyper culpabilisateur comme ça. » Et du coup, j'ai l'impression qu'elle disait ça et que, du coup, « Ah bah oui, du coup, on en parle partout, tout le temps. » C'était comme si elle l'avait dit, du coup, c'était vrai. Alors que je me disais « Bah non, en fait, on parle pas partout, comme ça. » Et du coup, ça faisait un peu passer un truc dans les esprits, comme ça. Ne faites pas ça comme ça, parce que vous risquez d'être enceinte ou de...
Au final, tu vois, je me dis, les messages de prévention, moi, ils me disaient « Il faut utiliser des capotes. » Mais comment et pourquoi et quels sont les risques exactement des différentes pratiques sexuelles et tout ça, laisse tomber. Encore maintenant, je ne suis pas très sûre de vraiment... Mais c'est peut-être aussi parce que, par exemple, quand on donne le risque de contamination liée à une pénétration ou une fellation, ça fait des chiffres avec tellement de 0,00 que ça a l'air ridicule, tu vois.
Ouais, moi j'ai jamais regardé ces chiffres. On m'a toujours dit il y a des risques, alors j'ai toujours intégré qu'il y a des risques, mais sans me dire, sans regarder un truc de pourcentage, parce que j'y crois très peu ce truc de pourcentage.
Je posais la question du risque, c'est que, comment on évalue les risques qu'on prend et qu'on se dit ok, je le prends quoi. C'est que je pense qu'effectivement, faire un cuni à une fille qui a ses règles, et ben, on augmente les risques puisque là il y a du sang. Le sang, on sait que c'est le fluide le plus contaminant avec le sperme. La mouille, c'est pas très contaminant, moi je crois. C'est ça que c'est, il y a moins de risques quoi. Comme tu disais tout à l'heure, il y a peu de cas connus, voire pas de transmission par la mouille de trucs. Alors.
Et l'éjaculation féminine.
Mais vas-y pour trouver des gens qui ont étudié ça.
Ouais, qui c'est qui aurait pu faire des études là-dessus, quoi. C'est ça qui est compliqué.
C'est parce que c'est les études scientifiques, ça va avec les idéologies dominantes, quoi. Il y a peu d'études sur les sexualités lesbiennes et sur les risques de contamination. Mais moi, ça me fait penser, j'avais lu une étude d'une chercheuse française, une sociologue française, sur justement les risques des lesbiennes par rapport au VIH, et elle, ce qu'elle révélait, c'est qu'en fait, la majorité, si ce n'est la totalité des lesbiennes qui contractent le sida, c'est quand elles ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est d'autant plus compliqué de parler de ça dans la communauté lesbienne, parce qu'il s'agit aussi de parler du fait que certaines lesbiennes ont des rapports sexuels avec des hommes. Mais c'est pareil, c'est des études super rares, et super difficiles à mener, je pense. Mais c'est ça qui est difficile dans les études, de toute façon, c'est que déterminer l'origine d'une contamination, c'est hyper complexe, selon certaines personnes. Et alors cette question du risque, de comment on choisit de prendre des risques ou pas, vous avez eu l'impression dans votre vie des fois de prendre des risques de façon consciente?
Oui. Moi ça me fait flipper, je crois, le risque. Je crois que j'ai peur du risque et du coup si quelqu'un me dit qu'il a une maladie ou une infection, je vais faire hyper gaffe. Et après, bizarrement, je fais quand même vachement confiance en l'autre personne si je sens qu'elle connaît bien son corps, qu'elle sait qu'elle fait souvent des examens ou qu'elle fait gaffe à quel type d'infection elle peut avoir. Je fais assez confiance. Et du coup, dans ces cas-là, j'ai pas l'impression de prendre de risque. Et les quelques fois où j'ai pu avoir une capote qui pète sans connaître l'autre et tout ça, ou sans avoir ce rapport de confiance-là, où là, j'étais flippée et je... Et du coup, j'étais pas bien, donc il fallait que je fasse des tests, que je fasse gaffe aux autres, que je... Enfin, et je sais que c'est un rapport où je me sens pas bien dans ce rapport au risque-là.
Ouais, moi ça me fait penser beaucoup parce que j'ai entendu des relations en mode hétérosexuel surtout, et que moi, en tant que lesbienne, et ben, je suis plutôt une mauvaise élève du safe sex et à pas être vraiment dans une démarche de protection là-dessus, quoi, clairement. Bah ouais, juste une fois j'ai eu une partenaire qui m'a demandé d'utiliser Dipnanter et moi j'y avais même pas pensé jusqu'à présent. Et après voilà, je l'ai très peu rencontré cette problématique avec mes partenaires. Et juste j'ai eu une relation avec une femme séropositive. Ben voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de protection à avoir dans d'autres cas, mais il se trouve que là ça se posait plus concrètement dans ma tête et entre nous. Et du coup c'était intéressant de voir comme... En fait, elle était séropositive depuis bien longtemps et comme elle-même, elle s'était pas vraiment renseignée et il y avait comme une peur abstraite d'un risque de contamination sans s'être renseignée vraiment sur concrètement quelle pratique, quel danger il y avait. Et du coup, on a été ensemble à un kiosque Info Sida à Paris pour s'en renseigner clairement là-dessus, quoi. Du coup, c'était vachement mieux pour nous deux. On a appris que... Pour les médecins ou la science officielle, et ben, y avait très peu de risques de contamination. Et du coup, il y a un peu un discours de bah, « vaut mieux se protéger, mais on ne connaît pas les risques concrètement. Enfin, on connaît pas concrètement de situation de contamination entre femmes. » Voilà. Et du coup, c'était la première fois où j'étais dans une situation où concrètement, là, il fallait que j'utilise une Dipnanter pour cette situation-là.
Et vous l'avez fait?
Et ben, je faisais pas de cunnilingus, et le jour où je faisais de cunnilingus, j'ai pas osé le dire.
T'as pas osé le dire?
J'ai pas osé l'amener, en parler, tout ça. Et c'est la seule fois que...
Du coup, vous avez pas utilisé de protection?
Non.
Et t'as eu peur après?
Bah ouais, j'avais peur cette fois-là.
Donc t'as fait un test?
Ouais. En fait, j'ai fait un test avant, parce que d'autres partenaires avaient peur de moi du fait que je sois en relation avec elle. Mais moi, je me sentais en sécurité personnellement parce que je m'étais renseignée sur les risques de contamination et que je prenais ça comme une peur pas rationnelle, voilà. Et que moi, je pensais pas m'être mise en danger, mais je comprenais la peur que ça pouvait générer chez les autres. Du coup, c'est plus pour les autres que j'ai fait un test. Et après, j'ai eu cette relation avec elle où là, je me suis sentie en danger et j'ai eu peur d'être contaminée. Et du coup, j'ai fait un test pour moi, enfin, par rapport à ma peur.
J'ai l'impression que dans les relations qu'on peut avoir, ou quoi, quand on prend le plus de risques, c'est quand on ne sait pas, ou quand notre partenaire n'est pas au courant qu'il ou elle est contaminé ou est malade, parce qu'il n'y a pas une attention particulière qui est posée dessus.
Oui, mais moi, en même temps, j'ai une pratique complètement irrationnelle, si on réfléchit comme ça. Parce que ça veut dire que, alors, pour la pénétration, de toute façon, je vais imposer une capote à quiconque. Mais par contre, quand on me fait un cunnilingus ou que je fais une fellation, parce que je suis hétérosexuelle, j'utilise aucune protection. Donc, c'est pas la personne, moi, c'est la pratique, tu vois. Enfin, mais parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même moins risqué. La dernière fois que j'avais lu des trucs, je m'étais dit, bon ben alors le risque par la pénétration, il est tellement plus important que le risque par le sexe oral, comme tu vois. Mais du coup, je me dis, c'est pas tellement une question de personne pour moi. Le truc bizarre de mon idée de la protection, c'est que je me protège du sperme, en fait, c'est tout. C'est la seule chose en réalité dont je me protège. Le reste, je m'en protège pas. Mais parce que voilà, faire des fellations à une capote, j'aime pas ça, ça a un goût affreux, ça me donne pas du tout envie, donc je le ferai pas non plus, tu vois.
Je peux te poser une question concrète, du coup ça veut dire que tu fais des fellations sans capote, tu vas jusqu'à l'éjaculation dans les fellations que tu fais ou tu évites?
Ah non.
Par rapport à ta... Tu parlais de ta protection par rapport au sperme,
j'évite complètement. Bah, parfois ça marche pas très bien, hein. C'est un peu comme la technique du retrait pour la contraception, ça ne marche pas toujours bien, c'est sûr. Mais après, je sais pas, tu vois, par exemple, c'est pareil, aucun type qui m'a fait un cunnilingus m'a jamais proposé de protection. Et je n'en ai jamais proposé non plus, et on a toujours fait ça comme ça.
C'est une problématique intéressante entre les hétérosexuels et les lesbiennes, parce que... On se rend compte que c'est surtout les lesbiennes qui sont vraiment renseignées, qui ont vraiment cherché à, à savoir quels étaient les risques lors des pratiques de sexe oral bouche sexe de fille, donc une lingus, ou le fait de toucher avec sa main le sexe d'une fille, ou toutes ces pratiques-là, c'est surtout les lesbiennes qu'on cherchait à savoir, parce que c'est leur... C'est... Alors qu'il n'y a pas que les lesbiennes qui font des cunis et qui mettent des doigts dans les sexes des filles.
Oui.
Mais j'ai l'impression que pour les filles hétérosexuelles qui pratiquent la pénétration, c'est tellement un risque fort, le risque du sperme, que ça donne ce genre de hiérarchie-là, alors que les lesbiennes vont plus prendre au sérieux, enfin, peut-être au moins théoriquement, quoi. Ces questions-là.
C'est sûr que les questions que tu poses, c'est un des critères aussi, de parce que les maladies et les infections, elles passent pas par les mêmes fluides ou les mêmes portes d'entrée, et du coup, ben, oui, en effet, il y a les discours un peu dominants, là, de dire ben, la capote sur un sexe d'homme quand il y a pénétration dans un sexe de femme et pour les PD, enfin, j'ai l'impression qu'il y a ça, voilà, et c'est pour protéger du VIH, alors qu'en fait, il y a plein d'autres infections et maladies qui passent par d'autres portes d'entrée, et du coup, il y a ce truc d'évaluer quand même, ben, moi, mes pratiques, je fais ci, ça, ça, enfin, comme ci, comme ça, et puis, et du coup, c'est quoi les risques qui vont avec, selon qui en face, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, en fait.
Mais comme je pense aussi que dans la sexualité non protégée, on prend des risques qui sont parfois mortels, qu'on est très culpabilisé de ça, mais que au fond, par rapport au reste de la vie, je sais pas si c'est des risques bien plus grands, tu vois, par rapport à tout ce qu'on fait d'autre dans la vie, je sais pas, du VTT, ou tu vois, comme c'est quand même quelque chose qui pour moi c'est pour prendre plaisir dans la vie, pour moi dans le plaisir il y a un risque mortel qui est là, voilà, que j'accepte de... Alors bon, après, je trouve que c'est très personnel le truc de... jusqu'à où on va, et c'est pour ça que je dis que moi je suis persuadée que j'ai une pratique assez irrationnelle du truc, mais que je rationalise par le plaisir que je me laisse prendre ou pas, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, demander une capote pour la pénétration, moi ça me dérange pas, ça me fait exactement pareil, enfin pareil, non, peut-être pas pareil, mais je veux dire que mon plaisir il est pas gâché, tu vois. Donc pour moi c'est très très facile, voilà, c'est comme mettre ma ceinture de sécurité, c'est facile, ça me dérange pas, ça, tu vois, c'est pas très contraignant.
Concrètement, ça se pose pas dans les rapports régulièrement, c'est parce que pour la plupart des lesbiennes, on pense pas à un risque ou un danger concret, et parce que le risque est moins fort. Donc après, oui, il y en a des risques, mais je pense que on ressent pas l'urgence, le danger, clairement de la même manière.
Et même pour les filles, en fait, ce truc-là du risque pas concret, etc., il existe. Ou même si c'est un peu plus concret par rapport à l'existence du sperme ou quoi, j'ai l'impression que de ce que j'ai discuté avec des copines, que le premier truc à laquelle elles ont pensé quand il y a eu soit des accidents de capote, soit des relations sans capote quoi, c'était au risque d'être enceinte, pas du tout au risque de transmission d'infection quoi. Et que le risque vraiment concret qui pèse sur le bide, qui crée vraiment du stress ou quoi, c'est celui d'être enceinte. Et puis après, petit à petit, vient la... Ah oui, aussi ça. Mais après, je pense pas pour toutes les filles, je pense que tout le monde a des rapports vraiment différents à ça, autour du vécu, de nos connaissances, de nos amis, etc. Et nos discussions, tout ce qui peut se passer dans nos vies.
Mais tu vois, quand tu disais que tes copines, leur première peur, c'était d'être enceinte, c'est aussi que moi, par exemple, s'il y a quelque chose qui a pas fonctionné dans ma protection, je sais qu'il y a des choses à faire là, tout de suite, pour éviter de tomber enceinte. Et d'ailleurs, en général, c'est pas que ça m'angoisse, c'est que ça me stresse dans une histoire de timing, de machin, de j'espère que ça va marcher, parce que sinon, il va falloir passer à la solution suivante, qui j'espère va marcher, parce que sinon... Bon. Mais alors, c'est vrai que par exemple, j'ai jamais couru chez le médecin pour lui dire... Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai peur d'avoir attrapé le VIH, tu vois? Je pense qu'il y a une question d'urgence qui n'est pas la même, qui est plus un stress latent, quoi. Tu vois, il va falloir se dépister, quoi, tu vois.
Mais moi, je fais une distinction, par exemple, aussi, entre l'herpès et... je fais une distinction entre ce qui est mortel et puis ce qui est soignable, enfin, dans aussi mon rapport aux autres et dans comment je discute de contraception, de protection. Je crois que ce rapport à la maladie, il va pas être le même bon, si quelqu'un a un herpès, me le dit, je fais gaffe, mais je fais gaffe comme quand quelqu'un me dit bonjour et me dit qu'il a un rhume. Enfin, je vais moins faire gaffe parce que je sais que c'est une infection qui est, enfin, quelque chose qui est soignable et qui est pas, enfin voilà, il y a... Je crois que je fais quand même pas mal cette distinction-là dans comment je discute de ces protections, selon si le risque il est mortel ou pas, quoi.
Bah, en tout cas, pour le VIH entre lesbiennes, moi j'ai entendu comme un cunnilingus que c'est le risque de transmission, en fait. Parce que ce qu'on entend, c'est qu'il n'y en a pratiquement pas de risque. Et du coup, si c'est le seul, sans parler de contamination à corps ouvert, si tu as une plaie, si tu saignes, c'est le seul en pratique sexuelle, c'est comme ça que ça m'est présenté. Du coup, forcément, je le prends en considération. Comme tel, quoi. Mais après, il y a un discours vraiment très limite à nous dire de pas faire de safe sex, de pas nous protéger parce que on connaît très peu les risques, qu'il n'y a aucune situation connue de contamination. Et après, il y a un discours plus justement de protection, à dire bah comme on sait jamais, il faut mieux se protéger quand même, quoi. Après, moi, je sais que j'étais angoissée parce que j'avais des bobos aux doigts et que j'avais peur, en pénétrant ma partenaire avec un doigt, de pouvoir être contaminée. Mais ça, maintenant, je l'ai vu comme une peur irrationnelle qui est pas fondée, quoi. Après, peut-être que je me trompe. Après, il y a ce truc de lesbophobie potentielle dans la science, dans la connaissance de la médecine, où on modère beaucoup le risque. Après, je sais que je me suis renseignée aussi auprès d'ACT UP et que c'était à peu près le même son de cloche qu'on me donnait. Du coup, pour avoir demandé à plusieurs interlocuteurs, voilà, quoi.
J'imagine que ça doit aussi dépendre du rapport à la maladie. Tu t'en parlais tout à l'heure. Comment on stresse de tomber malade, d'avoir de gérer le fait de se soigner, d'être contagieuse aussi, parce que je sais pas, là j'ai l'impression qu'autour de cette table, aucune d'entre nous n'a jamais eu d'IST grave. Et je me suis retrouvée à discuter il y a pas longtemps avec une amie qui a eu peur d'avoir une IST grave, enfin un herpès, que tu classais tout à l'heure dans les trucs pas graves. Et ben elle l'a classée dans les trucs graves quand elle a eu peur de l'avoir, parce que d'un coup elle s'est dit, mais je suis contagieuse, comment je fais? Quand est-ce que je peux baiser sans capote? Est-ce que je vais baiser toute ma vie avec capote, parce que le herpès ça se soigne pas et c'est toute la vie, voilà. On n'est pas contagieux tout le temps, parce que on est contagieux pendant les montées virales et tout, mais enfin c'est quand même un truc à gérer dans sa vie, quoi.
Ouais.
Et elle l'a hyper mal vécu. Rien que l'idée d'être peut-être d'avoir l'herpès, quoi. Et ça me faisait réfléchir à ça, que moi en fait je n'ai jamais eu d'IST sérieuse, c'est-à-dire en fait j'ai jamais eu d'IST vraiment. Et je pense que ça doit changer quelque chose aussi quand tu chopes une merde. Et même des copines qui ont chopé le papillomavirus par exemple, ça les a marquées aussi comme un truc de...
Oui, mais ça de toute façon tu le chopes avec ou sans protection, donc...
Voilà, non mais après, voilà, il y a des trucs, ça peut marquer les gens aussi dans des trucs de l'asexualité.
Ouais.
Elle est... Moi j'ai l'impression que si un jour je chope une IST, ce sera plus présent dans ma tête que maintenant. Malgré toute la théorie que je peux connaître. Vous voyez, j'ai l'impression que...
Tu parlais des vécus des personnes malades et cette amie séropositive, c'était hyper dur, quoi, sa vie sexuelle. Il y a plein de gens qui veulent pas... juste pas avoir de relation avec une personne séropositive. Et il y avait une fille qui lui avait sorti, tu devrais trouver quelqu'un comme toi, et tu as une négation totale de pouvoir avoir des relations safe dans ce genre de situation. Et du coup, là-dessus, c'était hyper dur, quoi, pour vivre les relations avec d'autres. Bah, c'est là où, pour le coup, avoir des connaissances concrètes sur les risques de contamination, ça permet de pas être soi-même quand on est contaminé dans un truc irrationnel de bah, on peut rien faire parce que je suis contagieuse, quoi.
Et puis la culpabilité, c'est un accident, quoi.
Ouais, c'est clair.
De toute façon, dans ces cas-là, souvent, ce qui est le plus dangereux, c'est le risque que toi, Tu fais courir à l'autre, séropositif, de lui faire attraper tout un tas de maladies, en fait. Je me dis aussi, ça marche dans les deux sens, tu vois.
Mmh. Oui, surtout qu'elle est amoindrie physiquement.
Bah oui.
C'est sûr.
Je pense quand on pense à une sexualité protégée avec des personnes séropositives, on pense à se protéger du sida et pas forcément à protéger la personne d'infection. Et je pense que c'est vachement intéressant de le poser comme ça, là. Je pense qu'on est peu de personnes séronégatives à penser comme ça.
Oui, en même temps, c'est évident, je pense, dans ce rapport négocié, que, parce que je pense que avec des défenses immunitaires un peu amoindries, tu dois te poser beaucoup plus de questions sur la moindre infection qui ne sont pas forcément hyper dangereuses ou soignables quand tu n'es pas porteur.
Oui, c'était très, très présent dans la relation qu'on a eue aussi. Je m'étais faite engueuler parce que je devais avoir un rhume ou je sais plus quoi, et que pour moi, je ne réalisais pas le
danger.
Le danger, la peur que ça devienne mal, quoi.
Écoutez Dégenrés sur Radio Kaléidoscope 97 FM, ce soir émission 100% latex. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, si vous avez pris l'émission en cours de route et que vous avez entendu un peu la discussion qu'on diffusait juste avant, donc on parle bien des infections sexuellement transmissibles et de leur impact sur nos vies et sur nos sexualités et sur tout notre rapport à la prévention, à la protection et tout. J'avais quand même envie de vous dire que pour le montage qui vient de passer, j'ai utilisé deux musiques. Une musique de The Vanishing, Love Sick, et la chanson que vous venez d'entendre de The Yeah Yeah Yeah. Je ne vais pas dire le titre, j'y arriverai pas. Tant pis.
Et alors, une des choses qu'on peut remarquer vraiment dans ce montage, c'est que, vous l'aurez sûrement compris, on était entre 25 et 35 ans, quelque chose comme ça, et on peut vraiment comme se dire qu'on est une génération capote, comme on s'est dit, parce que on a vraiment intégré certains risques et on en parle vraiment. Oui, où la capote, c'est quelque chose d'important qui est présent dans nos vies, qui est vraiment qui a vraiment une importance dans la sexualité, en fait, pour restreindre les risques de contamination par des IST. Et on voit que l'idée de la capote, elle est vraiment présente tout le temps quand on parle de sexualité.
Oui, ça fait partie de la sexualité. J'ai l'impression qu'on l'a vachement intégrée. Et en réécoutant les montages et tout ça, avec Ernest, on se demandait, c'est vrai, qu'est-ce qu'en penseraient des personnes qui sont peut-être un peu plus âgées et qui ont eu une sexualité avant l'épidémie du VIH, donc avant les années 80, et qui du coup vivaient une sexualité sans l'existence du sida. Et c'est vrai qu'on se demandait un peu, est-ce que ça aurait sûrement changé ça aurait sûrement changé l'image de la discussion s'il y avait eu une meuf de stage, d'un autre âge, quoi, un peu plus âgée. On se disait ça.
Et aussi, une des choses qui est certaine, c'est que quand on était petite, c'était vraiment au moment où il y avait le début du VIH, de l'épidémie, des gens qui mouraient, des gens qui l'attrapaient, une incompréhension aussi pendant tout un moment autour de cette maladie, d'où elle venait, pourquoi. Et ça, c'était présent dans les médias, c'était présent dans les discussions. Et où moi, je me souviens avoir, quand j'étais toute petite, qu'on me dise « Ah, mais ces personnes, elles sont séropositives, elles ont le sida. » Et c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner et ils vont mourir à un moment. Et que c'est quelque chose que j'ai intégré très jeune, du coup, parce que c'était présent dans les discussions dans ma famille, parce qu'on connaissait des gens qui étaient atteints du sida.
Ouais, une autre chose qui me marque dans la discussion qu'on vient d'écouter, c'est cette question de la hiérarchie des risques. Je ne sais pas si vous avez relevé ça. Moi, je trouve ça assez marquant. Alors, j'en distingue deux. Il y a une hiérarchie entre les différentes infections sexuellement transmissibles. Et on entend à un moment donné une fille parler de la hiérarchie qu'elle fait entre le sida et l'herpès, qu'elle dit qu'elle trouve ça moins grave, l'herpès. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Et notre analyse, c'était de se dire qu'en fait, les campagnes de prévention qui existent, elles existent surtout à propos du VIH. Enfin, quand on regarde les affiches, les petites plaquettes qu'on a lues quand on était au collège et tout ça, ben ouais, ça nous parle du sida tout le temps, quoi.
Les messages, c'est « la capote protège du sida ». Mais pas du sida, et puis de l'hépatite B, et puis de l'herpès. Du coup, c'est on voit qu'il y a aussi une certaine méconnaissance des autres types d'infections qui peuvent exister.
Et ce qui peut être un peu dommage, parce que c'est aussi sûrement là qu'on prend des risques et que d'ailleurs il y a du coup des nouvelles épidémies qui reprennent, comme celle de la syphilis par exemple. Il me semble depuis quelques années il y a une recrudescence de cette épidémie-là, mais parce qu'en fait c'est comme si la syphilis elle avait disparu avec l'apparition du sida, quoi. D'ailleurs, c'est ça aussi. Hein. C'est qu'on dit ah, la sexualité avec le sida, c'est mais avant le sida, il y avait, je veux dire, la syphilis, plein d'IST, et enfin, il y avait des risques aussi, quoi. La sexualité, elle était pas totalement sans risque avant l'épidémie du sida. J'avais envie de dire ça aussi. Mm-hmm. Et l'autre hiérarchie qui est révélée un peu dans cette discussion, c'est une hiérarchie entre les différentes pratiques, les risques liés aux différentes pratiques.
Qu'il y a certaines pratiques, on sait qu'elles ont des risques, mais elles sont minimes. Alors, il y a plein de gens qui vont choisir de ne pas se protéger parce qu'elles considèrent que les risques sont trop faibles. Par exemple, se dire « je taille pas de pipe avec une capote ». Par contre, pour pénétration sexe d'homme dans un sexe de femme, là, je choisis de mettre une capote parce que j'estime que le risque il est trop élevé. Et il y a d'autres gens qui, au contraire, considèrent qu'à partir du moment où il y a un risque, elles veulent se protéger. Et du coup, même pour tailler une pipe, par exemple, elles veulent mettre une capote. Ou pour faire un cuni, elles vont utiliser une digue dentaire.
Alors, qu'on soit bien clair, nous, à Dégenré, il n'est pas question de porter des jugements sur les choix des gens. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Hein, que les filles choisissent en connaissance de cause. À partir du moment où on connaît les risques qu'on prend et on les prend...
Consciemment,
moi je trouve que chacun est responsable de soi-même. Moi je ne dirais pas il faut utiliser une capote pour toutes les fellations. Je dirais voilà quels sont les risques, quoi.
Les risques qu'on a priori on connaît parce que une des remarques aussi qu'on s'est faites c'est hyper dur d'avoir vraiment connaissance de quels sont les risques, pourquoi. Qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça, beaucoup de. deux choses qui passent, c'est que même dans les brochures, c'est vraiment difficile d'avoir des données précises, des informations précises, aussi parce que les études, elles sont hyper complexes à mener. De savoir l'origine d'une infection, d'une contamination, c'est hyper dur de comprendre, parce qu'il y a aussi plein de tabous et plein de choses qui sont pas dites. Et du coup, comment les études, elles sont menées, tout ça, c'est compliqué.
On peut quand même rappeler pour nos auditeurs et nos auditrices les principaux risques. On peut rappeler la base, c'est que les liquides contaminants dans la sexualité, c'est le sperme. Les plus contaminants, c'est-à-dire les liquides à l'intérieur duquel, par exemple, le virus du VIH est super concentré, ou le virus de l'hépatite, c'est le sang, c'est le sperme, c'est les deux.
Et le liquide séminal.
Et le liquide séminal, qu'il ne faut pas oublier. Le liquide séminal, c'est la petite goutte de sperme qui sort du pénis au début de l'érection.
Et pendant l'érection et pas au moment...
Et pas au moment de l'éjaculation, voilà. En fait, qui sort avant l'éjaculation. Donc c'est vrai que c'est aussi un risque pour le fait de tomber enceinte. C'est souvent c'est pour ça que la technique du retrait, par exemple, ne marche pas. Bon, je le répète encore, je le répéterai toujours. La technique de retrait, pourquoi ça ne marche pas? C'est le liquide séminal, qui est la petite goutte de sperme qui est très concentrée en spermatozoïde.
Et c'est pour ça aussi que quand il y a une capote qui claque... Alors que l'homme n'a pas encore éjaculé, il y a des risques de fécondation et des risques d'être enceinte.
Là et aussi. Des risques de contamination.
Et les risques de contamination voilà. VIH-Sida et hépatite B.
Mais pour illustrer, parce qu'il y a des choses sur lesquelles les choses sont très claires, hein, il n'y a pas de débat sur le fait que le sang et le sperme, c'est très contaminant, que du coup une pénétration sans préservatif avec éjaculation dans le vagin... C'est un risque plus d'être contaminé si le partenaire est séropositif, bien sûr. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus difficile d'avoir des réponses très sûres. Et c'est, bon, on en parle déjà beaucoup dans la discussion. Dans la sexualité lesbienne, c'est compliqué. Mais aussi dans, du coup, parce que, par exemple, dans les sécrétions vaginales des filles, c'est pas clair. Moi, j'entends pas que des choses très claires à ce sujet-là. On dit « Ah, mais la mouille, quand même, c'est un peu présent, c'est un peu risqué. » Non, pas du tout. Voilà. Alors, du coup, après, c'est à chacune de faire ses choix. Est-ce qu'on considère qu'on choisit de prendre des risques ou pas?
Et aussi, dans les documentations, il y a très peu de moments qui disent, d'endroits qui disent « Ah, le sang des règles, c'est contaminant. » Sauf que le sang des règles, c'est comme le sang de partout dans le corps et c'est contaminant. Et ça, la manière dont c'est traité, ça laisse un peu penser que les femmes, quand elles ont leurs règles, elles n'ont pas du tout de sexualité. Alors qu'il y a plein de femmes qui ont une sexualité même quand elles ont leurs règles. Et que du coup, là,
oui.
Il n'y a pas d'études sur... Il y a peu d'informations dans les brochures sur le fait qu'il y a des risques avec le sang des règles.
Bon, peut-être on peut continuer à écouter un peu la discussion qu'on a eue il y a une semaine et demie avec ses camarades. Et là, le prochain morceau qu'on veut vous faire écouter, ou qu'on vous propose d'écouter, c'est plus sur la question des contrats qu'on peut justement mener avec nos partenaires. Comment, dans nos relations avec nos partenaires, on arrive à parler de cette question de protection, quoi.
Voilà.
Hey ladies, how you doing? Hey ladies, how you doing?
This beat is lesbotronic, 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 this beat is.
Vous avez l'impression d'arriver à communiquer facilement avec vos partenaires de la question de la protection, enfin que ce soit du safe sex ou de la contraception?
Ben, pas tout le temps, mais je crois que je me protège quand je n'arrive pas à en parler. Enfin, du coup, je me dis, des fois c'est plus simple de se protéger que d'en parler, et puis des fois c'est plus simple d'en discuter et de négocier plus les choses, quoi.
Finalement, plus tu communiquerais avec quelqu'un, moins tu te protégerais.
Ben oui, après j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit qu'il était porteur d'un truc... Mais oui. Ça m'est arrivé d'avoir des relations suivies avec des personnes et, enfin, qui duraient un peu dans le temps aussi, et même avec des garçons, hein, où du coup, il y a... Même à un moment donné, avec un contraceptif, j'ai déjà eu des relations comme ça où on se protégeait plus du tout, même avec rapport pénétratif. Et, bon, après, on s'est enfilé des fois des champignons, des trucs, mais... voilà, c'était discuter. Enfin, je me dis, il y a des moments comme ça où du coup, on peut se sentir de tenter des choses avec certaines personnes et avec d'autres pas du tout et même pas envie d'en discuter, quoi. Et...
Mais moi, je comprends bien ça aussi. Moi aussi, j'ai négocié. Il y a eu des négociations avec des partenaires mecs où du coup, le contrat faisait que on pouvait avoir ensemble une sexualité non protégée. Parce que je prenais un contraceptif. Et que le contrat était que, à partir du moment où il y a relation sexuelle de toute façon avec quelqu'un d'autre, ça se dit, puis du coup ça se dit est-ce que ça a été protégé ou pas et tout ça. Après on voit comme, est-ce qu'on se reprotège ou pas selon la confiance qu'on a dans l'autre, quoi. Mais voilà. Mais par contre, par exemple, moi, je dis pas à tous mes partenaires le fait que je prenne un contraceptif ou pas, parce que dans la pénétration, j'utilise des capotes, tu vois. Et c'est vrai que je me dis, peut-être que un gars pourrait avoir envie de savoir que même si on utilise une capote, je prends pas de contraceptif et que donc il y a un risque, tu vois. Et ben, c'est vrai que des fois, je ne discute pas de ça. Je me dis, à partir du moment où on utilise une capote... je gère ma contraception toute seule, quoi, tu vois, ou ma non-contraception toute seule. Mais du coup, oui, des fois, c'est parce que parfois c'est plus difficile de parler de ça à la limite que de mettre une capote.
Et t'as déjà été confrontée à des partenaires qui voulaient pas en mettre, vraiment ?
J'ai été déjà confrontée à des partenaires qui pouvaient pas en mettre, et ben, pas de pénétration.
Ils pouvaient pas en mettre, pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? Parce que ça les faisait débander direct, quoi.
Du coup, pas de pénétration.
Ah ben, si je sais pas où est-ce qu'on en est chacun, blabla et tout, non. Si, sauf dans le cas, voilà, où on discute, on fait des tests, on a un contrat de comment ça va se passer, et à ce moment-là... ouais, donc du coup, pour les mecs pour qui les capotes c'est difficile, ça nécessite beaucoup de conversations. Tandis que pour les mecs pour qui les capotes c'est facile, ben, y a pas besoin de conversation.
Et ils acceptent aussi le truc de ben, pas de pénétration.
J'ai rencontré que des gars très très gentils. Je sais pas, oui. Mais même, jamais personne m'a dit « Oh, allez, s'il te plaît », tu vois.
Mais je crois que j'ai déjà vécu un truc comme ça aussi, où mon rapport à la protection était négocié avec les personnes et tout. Vu que ça concernait plusieurs relations, et ben à un moment donné, c'est pas dans comment moi je négocie les choses avec chaque personne, c'était comment telle personne, enfin mélanger aussi à des relents de, et de jalousie et de trouver un truc du coup qui de dire ah mais en fait là ça me convient pas, le comment tu peux faire confiance à telle personne sur tel risque à prendre ou pas. Enfin, et je comprends hein, du coup la flip que ça peut générer. Et en même temps, je sais que je l'avais assez mal vécu, ce truc de qu'on me ramène à des trucs comme ça. Et
moi, je me suis sentie assez rationnelle dans cette peur que j'ai eue. Bon, en fait, j'ai eu une relation qui a duré plusieurs mois avec cette amie qui est séropositive. Et j'étais pas du tout dans l'inquiétude, en fait. Mais parce que je pense que je suis aussi un petit peu... pas très raisonnée des fois, ou je sais pas, une angoissée sur des choses de ce genre, ou je sais pas. Et en fait, c'est après s'être retrouvée après un moment, et en fait, je sentais mes sentiments changer envers elle, et je me suis dit, tiens, c'est marrant que là, tout à coup, j'angoisse, alors qu'avant, ça me posait aucun souci. Et puis peut-être, je pense aussi d'avoir... parler de ça avec plusieurs personnes qui étaient dans des angoisses par rapport à ça. Bah, petit à petit, après, ça m'est venu, quoi.
Le sida, ça a quand même amené que, effectivement, dans les rapports hétérosexuels, eh ben, d'un coup, on est obligé de se poser la question. Je me dis, mais avant, ça devait être terrible, quoi. Enfin, est-ce que déjà, je sais pas, hein, est-ce que c'est des mecs qui disent ça ou est-ce que c'est des filles ? Avant le sida, c'était vachement mieux, on baisait comme on voulait. Mais vous voyez, ça m'a posé cette question, en fait, de comment... Et ben ça peut amener comme nécessité de parler dans nos sexualités et comme nécessité de forcément discuter un peu, notamment dans la sexualité hétéro, des risques qu'on prend et de comment. Alors je sais bien que de fait, il y en a plein qui n'en parlent pas et que de fait, il y a plein de gens qui prennent des risques. Mais n'empêche que je me demande si ça a pas aussi, si ça peut pas aussi être vu comme un outil. On peut le voir comme juste une galère et une contrainte chiante, ou on peut essayer de l'envisager comme un truc qui permet de parler de cul, en fait.
Bah avec les gens avec qui t'as envie de parler, c'est bien.
On en revient, hein. Quand on n'a pas envie de parler, qu'on a juste envie de baiser, c'est un peu relou.
Mais oui, non, mais je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien quand c'est pas culpabilisant, quoi. aussi, parce que...
C'est quoi qui est culpabilisant?
Ça dépend si c'est juste on négocie quelle protection on met, ou si c'est on parle de, par exemple, toi c'est quoi ta sexualité, pour essayer en gros d'évaluer le risque qu'on est en train de prendre et tout, parfois ouais, là par contre ça peut être un peu culpabilisant, tu vois, de te dire je sais pas, t'as des multiples partenaires, tu sors, enfin tu vois, il y a des trucs t'as pas envie de... Des fois t'as envie, t'as besoin de l'expliciter et tout, puis et des fois ça peut être un peu...
Mais après j'ai l'impression que la réalité de plein de gens, c'est que ils ont aussi des partenaires assez réguliers. Qu'il y a toujours ce truc de début de relation et qu'après très vite il y a un truc de confiance, un truc d'exclusivité, etc.
Mais bon, finalement, est-ce que c'est pas les situations les plus dangereuses?
Tu parles du mensonge. Ouais, je pense que du coup ça doit créer des risques aussi de pas pouvoir, enfin d'être dans un truc de mensonge.
Mais moi je vois déjà, c'est difficile, tu vois, dans une relation sans mensonge, c'est pas si facile que ça de se dire ça dépend des gens, mais moi je trouve pas ça si évident que ça, même si on s'est mis d'accord et blabla, de dire la semaine dernière d'une part j'ai baisé avec quelqu'un d'autre, d'autre part la protection bof moyen, quoi.
Un truc plus simple par rapport à des rencontres qui peuvent être passagères, voilà, quand on plaît bien, j'ai l'impression que c'est plus simple.
Il n'y a pas à gérer la contraception, ce qui est quand même un truc en moins. Il n'y a pas le sperme, quoi.
Oui.
En tout cas, c'est ça qui fait que ça change. Je trouve que c'est le truc, l'élément qui fait qu'il n'y a pas ce risque-là de contamination ou de que ce soit du côté, enfin, dans le risque de tomber enceinte ou dans le risque de choper des merdes.
C'est sur le fait que moi, j'ai jamais à penser à prendre une pilule du lendemain, le lendemain d'une relation. Ou à me dire, merde, la capote. Enfin, j'ai jamais eu à avoir choisi entre la frustration tant pis pour ce soir, ou je le fais dans cette situation qui est pas safe, quoi. J'ai l'impression, quoi, que ça soulève moins de difficultés comme ça.
Moi, je l'ai pas. Moi, je pense que j'ai vécu un truc où il y avait moins besoin de parler, quoi. Parce qu'il y avait moins de risques.
Mais j'ai pas l'impression que. Quand tu dis on n'est pas obligé de parler et tout, la plupart du temps on n'est pas obligé de parler. Si les choses, enfin tu vois, je sais pas.
Ouais, mais du coup tu dois gérer autrement. Il y a des questions qui se posent que tu gères sans parler, mais du coup en pensant à comment tu vas gérer techniquement le truc. Et j'ai l'impression que peut-être entre deux lesbiennes, il y a juste moins se prendre la tête au départ, quoi. Il n'y a pas du tout de technique de comment on va faire, machin.
Mais ça, c'est parce que ça, c'est si tu décides d'avoir une relation sexuelle sans protection, n'est-ce pas?
Tout à fait.
D'accord.
On est d'accord.
Quand je dis j'ai jamais eu à négocier, c'est que j'ai jamais eu à négocier quoi que ce soit de mettre une capote pour les trucs où moi je voulais qu'on mette une capote. Et où l'autre, en général, il voulait qu'on mette une capote aussi. Donc la question ne se posait même pas. Si, elle se pose dans t'en as, ou trouver une pièce de 2 euros pour mettre dans la machine, ou... Mais c'est plutôt rigolo, ça. Plutôt sympa.
Oui, alors que moi, j'ai déjà été dans des rapports de négociation, par exemple. J'étais dans des rapports de négociation, quoi. Un gars qui insiste, et moi qui dis non, mais en fait, juste, il n'y a pas de capote, il n'y a pas moyen. Et après, de me sentir obligée de m'excuser, que c'est pas possible. Un truc comme ça qui est quand même hyper glauque, quoi. Mmh. C'était mon premier partenaire.
Mais même, mais moi, je pense que la moitié des gars avec qui j'ai baisé, on a baisé sans capote et ils m'en ont jamais proposé. Et moi, j'avais 17 ans et je n'osais pas leur proposer. Et juste. Enfin, et ça, je considère ça comme de clairement abusé, quoi. Mais c'était ça, enfin, c'est ça la réalité que j'ai vécue, moi, c'est que les mecs, ils proposent pas. Ils en parlent pas non plus, puis toi. Mais, et puis moi, je parle clairement de rapport pas égal, parce que je considère qu'ils étaient plus âgés que moi et qu'ils avaient une responsabilité qu'ils prenaient dans le fait de baiser avec une plus jeune. Et dans toutes les responsabilités qu'ils prenaient, ils prenaient pas du tout la responsabilité de la prévention. Et je trouve que c'est eux qui avaient cette responsabilité-là plus que moi. Et ils la prenaient pas. Et je pense que les risques étaient plus importants.
C'est une question de rapport de pouvoir qui va au-delà de la relation inter-individuelles que tu peux avoir.
Bonsoir. Alors la musique, c'était Valérie sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. On est sur Radio Kaléidoscope 97 FM et on parle du latex. C'était un montage sur l'importance, qui parlait un peu de nos rapports à nos partenaires et comment on arrive à discuter de la contraception et du safe sex. Et ce qu'il en ressort, en fait, pour nous, c'est un peu la nécessité d'apprendre à discuter clairement et à se dire les choses entre partenaires et à être clair et arriver à faire des choix et des contrats, en fait, qu'on suit. Et que si on ne les suit pas, se l'exprimer pour éviter, en fait, des accidents qui se multiplient en chaîne et de risquer de se transmettre... des IST, en fait. Du coup, c'était insister sur l'importance, en fait, au final, d'arriver à communiquer entre partenaires sur ces questions-là, et aussi pour se sentir plus à l'aise dans les pratiques, dans les choix qu'on fait autour des risques et des prises de risques, notamment.
Tout en sachant qu'on a tout à fait conscience que c'est pas si facile.
Voilà, que ça demande aussi de dépasser plein de tabous, plein de peurs, plein de peurs de jugement, de choses comme ça.
Voilà. Mais on va pas plus discuter que ça si on veut avoir le temps de tout vous faire écouter. Donc on va directement passer au montage suivant, qui est en fait un montage dans lequel vous allez entendre encore la suite et un peu la fin de la discussion qu'on avait eue avec les copines. Là, donc plus sur comment on gère un peu les accidents de capote et les trucs comme ça. Et puis après, on vous propose d'écouter une lecture d'un texte qui est ressorti de l'atelier d'écriture dont on vous parlait au début, sur l'histoire d'une fille et de son rapport à la pilule et au médecin et tout, et c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous propose d'écouter ça maintenant.
Il y a aussi toute la théorie de la capote qui pète. Alors aussi, des fois, c'est la capote qui s'enlève. Elle s'en va ou elle reste dans le vagin, quoi. Et c'est arrivé à plusieurs copines. Et qu'aucune était au courant que ça pouvait exister, que ça pouvait arriver. Parce qu'on parle tout le temps de la capote qui pète. Et jamais de la capote qui se barre. Ça fait un truc encore plus dur d'en parler. Parce que c'est comme si ça n'existait pas. Et puis que ça leur était arrivé à elle toute seule. Et à jamais personne d'autre. Tout ça.
Moi, ça m'est arrivé.
Moi aussi.
Avec un mec, c'était la première nuit qu'on passait ensemble. Donc la première fois qu'on baisait ensemble. Et la capote est restée au fond de mon vagin. Et moi, j'étais jeune en plus, du coup, j'étais pas hyper à l'aise avec mon sexe. Et c'était hors de question que moi j'aille la rechercher. Du coup, je lui ai dit : tu vas rechercher ça immédiatement. Bon, voilà, le lendemain, on a été acheter une pilule le lendemain. Et puis voilà. Mais d'ailleurs, j'ai pas du tout pensé à faire un test de dépistage, j'ai juste pensé à acheter une pilule le lendemain.
Ça m'est déjà arrivé, enfin une fois, mais du coup, c'était hyper chiant parce que c'était un gars que je connaissais pas, quoi. Ben du coup, ouais, c'est un des moments où j'étais pas bien, quoi. J'ai fait des tests, la pilule du lendemain, tout, quoi. Mais du coup, ça doit arriver. Enfin, ce que tu dis, qu'on parle souvent de la capote qui pète, mais la capote qui juste se barre, et ben elle...
Moi, j'en ai entendu parler plein de fois depuis.
Oui, mais dans les documentations, par exemple, dans les trucs officiels, c'est jamais noté. Vraiment, les personnes, moi, avec qui j'en ai parlé, à qui c'était arrivé, elles se sentaient hyper isolées là-dedans, quoi.
Et oui, du coup, moi, ça allait avec une époque où je me souciais pas du tout de comment c'était mis et tout ça. C'était pas ma responsabilité de le mettre. Enfin, si, je le souhaitais, ouais. Mais j'allais pas le faire moi, vérifier comment c'était fait, quoi.
Non, en plus, ce qui est vraiment chiant dans ces histoires de capote qui foire, que ce soit qu'elle craque ou qu'elle... C'est que la plupart du temps, bah, ça t'arrive comme ça, parce que c'est la première fois que tu baises et que du coup, il y a de l'incompréhension dans le... schmilblick qui se passe, je sais pas, plus tu te connais et moins ça arrive, mais du coup, là, c'est justement ces moments-là où il faut se mettre à parler avec des mecs que tu connais pas bien, que t'es en train de séduire ou que tu voudras plus jamais revoir de toute façon parce que c'était juste comme ça. Et voilà, et finalement, en fait, tu disais, est-ce qu'on a du mal à parler pour négocier la protection? Ben, moi, non, mais par contre, j'ai vachement de mal à parler une fois que ça a merdé. Alors là, je crois que souvent j'ai juste pas envie de parler d'en parler. Moi, j'ai jamais demandé à quiconque de m'acheter ma pilule le lendemain, par exemple. Je suis toujours allée moi et puis mais souvent parce que j'avais pas envie que ces mecs là j'avais pas envie qu'ils se mêlent de ça une fois, enfin tu vois, ça, c'est après, c'était, j'avais pas envie de partager ça avec eux. Finalement, c'était limite plus intime que la sexualité, réalité, tu vois. Je préfère partager mon stress avec mes copines, quoi. Elles sont beaucoup plus sympas, efficaces. I'm so tired.
J'ai une longue histoire de pilules. Ou plutôt, j'ai une longue et trash histoire de pilules. Elle commence environ vers 13 ans, quand je veux la prendre. En fait, elle commence vraiment à mes 14 ans. Je veux juste en parler au médecin, et ma mère, qui me prend encore pour une petite fille, veut m'accompagner. Quand je lui dis que niette, c'est hors de question, la connectique se fait. Maman a une étincelle dans l'œil. Sa fille est ado. Qui dit ado dit presque femme. Qui dit presque femme dit sexualité. Qui dit sexualité dit « Ma petite fille, mon enfant, mon bébé m'échappe !» Elle pige d'elle-même « Waouh, que je veux la pilule !» Non, elle ne va pas en discuter avec moi. Elle va refermer, pour un bout de temps, le tabou de la sexualité avec la phrase choc. « Non mais t'es sérieuse? T'as que 14 ans !» Elle ne sait même pas pourquoi je la veux. Elle ne commence pas par me poser des questions sur ma vie, mes envies, mes expériences. Non. Elle pose que j'ai 14 ans, et je vais heureusement seule chez le toubib, mais les larmes aux yeux. Remarque, maman n'aurait sûrement pas voulu entendre ma première expérience question contraception. C'était « Plutôt rien faire qu'avoir un bout de latex entre toi et moi. » Est-ce qu'elle aurait sauté au ciel parce que 13 ans c'est trop jeune? Ou est-ce qu'elle aurait tout fait pour ne pas connaître cette phrase qu'on m'a dite la première fois où j'ai posé que je voulais une capote?
parce que c'était le premier connard qui n'a pas pensé par lui-même qu'il pouvait être important de mettre une capote. C'était la première porte qui se fermait, question tabou sur la sexualité et la contraception. J'ai, ce jour-là, enfui bien profond dans le sable de la plage où on était la notion du risque de l'IST. Un risque lointain, vague, flou, flottant. Il était bien mieux sous le sable, dans le froid et l'humidité, avec cette vieille odeur d'algues pourries. Par la suite, je n'ai plus compté les portes de tabou qui ont été claquées. Il y a eu celle qu'il m'a claquée plein de fois à la gueule pour me dire « C'est ta merde, débrouille-toi ». Et je devais frapper une heure pour qu'il l'entrouve et me passe les 7 euros de la pilule du lendemain. Car être enceinte était le risque qui était resté bien vivace, bien présent. Mais c'est moi qui le portais, ce risque, moi toute seule, en silence. Car la porte du tabou était fermée, forcément, et je m'occupais seule de tout ça. Comme on me l'avait bien fait comprendre, de manière bien explicite... Mais ça peut pas attendre demain, franchement. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. On n'en serait pas là si tu oubliais pas systématiquement de prendre tes cachetons. C'est vrai. J'oubliais souvent. Je me disais, putain de merde, je l'ai encore oublié. Qu'est-ce que j'ai dans le crâne? Et je serrais les poings et je frappais mon ventre dans l'espoir de tuer tout ce qui pouvait y grandir. Envie de me cogner la tête contre les murs pour m'apprendre à ne pas oublier. C'était des instants de rage, violents contre moi et contre la fatalité. Et c'était encore de ma faute si notre relation partait en latte parce que cette histoire de pilule ne faisait que tout pourrir. J'encaisse. Les portes des tabous claquent et j'encaisse. J'en parle à une amie. Tentative d'entrebâillement d'une porte. Elle me répond. Si tu oublies si souvent, ça veut bien dire quelque chose. T'aurais pas l'envie inconsciente d'avoir un enfant ? La chaîne claque. La porte était sécurisée, la chaînette fermée. Et la porte, claquée par le regard des autres. Celle-là. La pharmacienne qui dit « Vous savez, ce doit être pris de manière occasionnelle, la pilule du lendemain. Ce n'est en aucun cas un moyen de contraception. » J'étais toute rouge et j'ai bafouillé. « Je sais, c'était un accident. » Et puis j'ai senti les regards des gens dans la file d'attente qui me transperçaient les chines. Je me souviens alors de faire le tour des différentes pharmacies pour en trouver une où il n'y a pas de client. Et puis le regard impassible de la vendeuse à la caisse, mais qui n'en pense pas moins. Bam! C'est la tempête des portes qui claquent. Je les entrebâille, bataille, pousse, cherche des clés. Les gens donnent des coups de pied dedans pour les refermer. Du genre, un stérilet? Non mais c'est super dangereux! En plus, faut avoir déjà eu au moins un enfant. Ou alors, un implant? C'est pas prudent, ça se peut que ça soit vraiment cancérigène. L'abstinence, me direz-vous maintenant? Non. Avec l'amour, l'envie, le désir et mon mec du moment, c'était même pas la peine d'y songer. Et maintenant? Maintenant, j'écris, je discute et je rouvre les portes. Dessus, je colle des étiquettes, avec des mots énormes. Des mots utilisés par les féministes pour parler des trucs dont on ne parle pas. Des mots pour ouvrir des portes, les définir et apprendre à en imposer, à savoir ce que je veux et comment je le veux. Dans mon grand cahier que personne ne lit, je note ce qui me rendra plus forte, parce qu'en connaissance de cause, parce qu'en sachant, parce qu'en nommant, parce qu'en s'y attendant, parce qu'en s'y préparant, parce que... Comment elles disent les vieilles féministes? Ah ouais, le savoir c'est la force. Moi je rajoute que les mots sont des clés pour les portes claquées. I'm so tired. Like damn. Tired. That I'm forgetting. When you were walking, holding my hand, and the kiss is going straight up to my brain, I am putting all this stuff into your lungs.
Vous écoutez toujours Dégenré sur Radio Kaleidoscope 97 FM et le morceau à la fin de la lecture, c'est un morceau de Tender Forever.
Et maintenant, on va vous lire un texte qui est un témoignage un peu de d'une histoire de papillomavirus et aussi d'un rapport au monde médical, parce que là on avait aussi envie d'aborder la responsabilité en quelque sorte du monde médical dans aussi la transmission d'IST, le savoir et des choses comme ça.
Pendant plusieurs années, je n'ai pas eu de relations sexuelles avec des mecs. Avec des filles seulement, mais pas beaucoup. Et j'avais plus mes règles depuis de très longs mois. J'ai fini par me dire que le sexe, c'était pas pour moi. Je vivais bien sans, et mon corps me le prouvait bien, selon moi. Bref. Un jour, j'ai quand même rencontré un gars. Eh ouais. Avec qui j'ai eu envie de faire du sexe. Et là, bam, mes règles, elles sont revenues. J'étais contente de retrouver cette partie de mon corps et j'ai fait gaffe à ne pas prendre la pilule plus jamais pour bien me réapproprier mes cycles, mes douleurs, mon sang. Mon sang, parlons-en. Je me suis mise à saigner beaucoup et souvent pendant les rapports avec pénétration. Lui, ça le gênait pas. Je crois même que ça l'excitait même plus. Et puis il s'en fichait et du coup, moi, ben, je me suis pas plus que ça préoccupée de ma santé. Je me suis dit que mon corps, encore une fois, m'envoyait des messages pour me signifier qu'il aimait pas les mecs, pas les rapports hétéros, tout ça. Après, j'ai eu une amante, et elle, par contre, elle m'a dit de faire gaffe et d'en parler à une gynéco. Sauf que, eh ben, c'était une gynéconasse. Déjà, elle a tiqué quand je lui ai dit que j'étais pas étudiante, pas travailleuse, que je cherchais pas spécialement du travail. Elle a insisté super longtemps pour comprendre comment je faisais pour vivre, comment je faisais pour payer mon loyer. Elle avait l'air très fâchée. Ce n'est qu'ensuite qu'elle m'a demandé pourquoi je venais la voir. Je lui ai dit que je saignais pendant les rapports sexuels, et là, elle m'a demandé si mes partenaires étaient « violents » en me regardant de façon très méprisante. Et moi, je me suis sentie coupable, très mal. Pourtant, je savais bien que ça n'avait rien à voir. Elle m'a examinée et m'a dit que j'avais des lésions sur le col de l'utérus. Là, j'ai demandé de voir mon col. Est-ce que, par hasard, elle pouvait mettre un miroir ? Là, elle est devenue toute blanche, et elle m'a dit « Non, pourquoi ? Ça vous ferait peur et vous ne comprendriez rien. » J'ai insisté, mais elle m'a mise tellement mal que je me suis sentie coupable et bizarre et sale de vouloir voir mon vagin et ce qui s'y passait. Elle m'a fait un frottis. J'avais un papillomavirus. Je lui ai posé plein de questions, mais elle voulait pas y répondre en me répétant que c'était pas grave, mais qu'il fallait faire une biopsie pour voir si c'était pas un cancer. J'étais vraiment super mal. Et j'ai regardé sur Internet, et là, j'ai découvert que c'était une IST, une infection sexuellement transmissible. Et cette gynéconasse, elle me l'avait même pas dit. Mais c'est grave, non ? Ensuite, il s'est avéré que c'était bien un cancer. Elle me l'a annoncé, après m'avoir demandé... « À quel âge avez-vous eu vos premiers rapports ? Parce que ce que vous avez arrive à des femmes qui ont une sexualité précoce et de multiples partenaires. Vous avez un cancer du col de l'utérus. » Là, j'étais tétanifiée. Elle ne me connaissait pas, ne connaissait pas ma vie, le fait que j'avais été abstinente et lesbienne une grande partie de ma courte vie. Je lui ai dit que j'étais choquée par ce qu'elle venait de dire, et elle s'est énervée. Et moi, je suis partie en pleurant et sans savoir à qui en parler parce que c'était un peu la honte, comme une genre de punition ou quoi, pour une vie de débauche. Bientôt, je vais me faire opérer. Et il paraît que c'est rien du tout et que tout ira bien.
Voilà, alors du coup, c'est un texte qui parle aussi du rapport aux gynéco, aux gynéconasses. Comme on entend, et ce qui est assez choquant dans ce texte, c'est par exemple le fait que la gynéco, elle n'ait rien dit à la personne sur le fait qu'elle avait une IST, qu'elle pouvait transmettre donc. Et du coup, ça montre un peu comment, à des moments, les médecins ils gardent en fait des informations qui sont importantes et qui permettent de faire de la prévention et qui permettent de se protéger en fait.
Et donc, ils ont une vraie responsabilité par rapport à ça. Et on a quand même recueilli beaucoup de témoignages aussi, parce qu'en préparant cette émission, on a discuté avec beaucoup de copines autour de nous. Et moi, j'ai vraiment recueilli plusieurs témoignages d'amis qui ont eu à un moment donné des IST et à qui les médecins étaient très frileux de donner des indications claires. Une copine, encore il n'y a pas longtemps, qui me racontait qu'on lui a dit « Bon, il faudra mettre votre libido un peu en pause hein. ». Alors elle dit, mais quoi ? Il faut que je n'aie aucune sexualité ? Il faut que j'évite les rapports de pénétration ? Il faut que je mette des préservatifs ? Qu'est-ce que vous me dites, en fait ? Et en fait, le médecin en face, il devient tout rouge, il sait plus comment dire, mais parce qu'en fait, les médecins, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont des difficultés à parler de sexualité simplement, de pratique, parce que selon les IST, bon bah voilà, on va déconseiller la pratique de la pénétration, ça n'empêche pas de pouvoir, le sexe, c'est pas que la pénétration, de pouvoir peut-être pratiquer d'autres choses. Bref, c'est quand même un vrai souci qu'on peut dénoncer là, nous, parce qu'on a beaucoup de témoignages à ce sujet-là. De prescriptions très, très peu claires, en fait. Et qu'en fait, c'est super handicapant dans la vie, parce que quoi, si on a une IST, il faut qu'on devienne abstinente.
Oui, c'est un moment comment les médecins ils sont incapables de donner des explications claires ou des recommandations claires pour savoir comment on doit se comporter avec nos partenaires ou dans notre sexualité pour éviter de faire prendre des risques, en fait. Et aussi, du coup, dans le texte, ce qui apparaît, c'est le refus de montrer. Et c'est le refus de montrer à la personne son col de l'utérus avec un miroir. Ce qui est aussi une forme, une manière en fait de garder le savoir, de garder l'information, de garder la connaissance et d'empêcher la personne en fait de reprendre du pouvoir sur son corps,
de comprendre,
de comprendre ce qui lui arrive, d'avoir une réelle connaissance de ce qui se passe en elle en fait. Du coup, c'est assez doublé une sorte de mépris et de catégorisation des personnes que. Et c'est pareil, des témoignages là-dessus, on en a plein de gynécos qui veulent pas faire de frottis parce que la personne est lesbienne, alors il n'y a pas de risque. Sauf que le papillomavirus, il se transmet en fait, même entre lesbiennes, et puis que le frottis, c'est la seule manière de le détecter. Et du coup, c'est des choses... Vraiment, comment, à des moments, les personnes, les patients sont catégorisés, en fait, et le médecin choisit lui-même ce qui est important de faire ou pas.
Et c'est vraiment de la responsabilité des médecins et du monde médical de se former, de se renseigner, d'être au courant de, par exemple, des risques liés à la sexualité lesbienne, parce que c'est un vrai problème de trouver des gynécologues un peu compétentes à ce sujet-là, qui savent un peu, qui pensent pas que parce que t'es lesbienne, tu es vierge, enfin bon, bref, des idées reçues comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment de la responsabilité des médecins de se former, d'aller se renseigner et tout. Et ensuite, pour pouvoir soigner et rassurer et renseigner convenablement les patientes. Et de la même façon que c'est aussi de leur responsabilité de se tenir au courant des évolutions des infections, de comment, enfin des épidémies, etc. Et également un peu de s'habituer à pouvoir parler de sexe un peu de façon claire et sans problème et sans tabou parce que, et sans jugement. Parce que sinon aussi, on ne peut pas dire les choses franchement à notre médecin si on sent qu'elle est choquée par ce qu'on lui dit, si on sent que de toute façon, elle va nous regarder avec des yeux comme si on était une extraterrestre. Enfin, vous voyez, pour être en confiance, il faut bien être face à des personnes qui sont capables un peu de parler de sexualité de façon saine, j'ai envie de dire.
Et là, ça enchaîne très bien avec aussi les difficultés qu'on peut avoir à se faire dépister dans les centres de dépistage gratuits et anonymes, où il y a pas mal de restrictions de budget, que les dépistages, ça coûte cher, et du coup, ils font comme les dépistages nécessaires, et qu'à des moments, ils refusent assez facilement certains dépistages, comme le dépistage de l'hépatite C, par exemple, ou le dépistage des hépatites. Et moi, par exemple, c'est une histoire qui m'est arrivée, où je vais pour me faire dépister... du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C et de la syphilis. Et quand je dis que ces derniers temps, j'ai eu que des rapports avec des femmes, ils me répondent « Oh, bon, l'hépatite C, l'hépatite B, il n'y a pas besoin, la syphilis, ça suffira. » Et où moi, je dis « Non, non, mais en fait, je les veux tous. » Et puis, ils refusent, en fait, se disant que, par exemple, pour l'hépatite C, pour l'hépatite B, j'ai qu'à me faire vacciner. Et l'hépatite C, de toute manière, j'ai pas de contact avec du sang. Sauf que les femmes, ça a des règles tous les mois. Alors, du contact avec le sang, on en a. Et vraiment, plein de témoignages de personnes qui, pour se faire dépister, sont obligées de batailler, en fait. Et de sortir, et de mentir, en final, pour avoir le droit d'être dépistée. Alors que on pourrait être... suffisamment autonome et responsable pour savoir estimer aussi et avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir estimer les risques qu'on a pris et avoir le droit du coup d'être dépisté de ce qu'on demande en fait.
Déjà que c'est pas si évident comme démarche d'aller de se dire ok là je vais faire le bilan, je vais aller me faire dépister. Je pense qu'il y a énormément de personnes pour qui on a un peu la trouille, on n'ose pas, on repousse le temps d'aller se faire dépister parce qu'au cas où on découvrirait qu'on aurait un truc, on n'a qu'à rester dans l'ignorance. Hein. Enfin, je pense que c'est un sentiment énormément partagé, cette peur de se faire dépister, alors que c'est effectivement très important. Et puis que de toute façon, si on a quelque chose, autant le savoir. Mais je pense que c'est déjà difficile comme démarche à un niveau personnel. Alors effectivement, si on est reçu par des personnes qui nous jugent et qui nous écoutent mal... eh ben, ça ne va pas nous aider à avoir le courage d'aller se faire dépister. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai envie de noter ça, que c'est quand même une démarche pas évidente. Et de le reconnaître, et de pouvoir se forcer un peu, parce que c'est important. Mais...
Oui, ça peut être assez stressant ou angoissant en fonction de notre rapport qu'on a à la maladie, à la peur de la maladie, tout ça.
On va écouter le dernier montage de issu de l'atelier d'écriture.
Du coup, c'est une série de textes qui sont lus par des amis, pas forcément les personnes qui ont écrit les textes.
Voilà.
Et après, on vous fera un petit agenda.
Voilà, à tout à l'heure.
Le début d'une histoire. Vous savez, là, quand on passe notre temps au lit, à baiser, manger et rire. Les moments love-love ultra-fusionnels où on se nie complètement pour se fondre dans l'autre. Bon, vous voyez le tableau, quoi. Il joue avec le feu. À qui sera le moins raisonnable ? Elle joue, elle aussi, et de bon cœur, parce que c'est grisant de flirter avec le danger et qu'elle est amoureuse. Mais elle ne peut s'empêcher de penser, dans un coin de sa tête, que ce jeu n'est pas équitable. Qu'il ne prend pas les mêmes risques, elle. Culpabilité de mettre fin au jeu, d'être là, raisonnable, de ne pas être la folle qui l'attendait, de le décevoir. Très très marrant comme jeu. C'est rigolo de prendre des risques. Mais qui prend des risques, hein? Vas-y, réponds. C'est quoi tes risques à toi, en tant que mec? Tu sais que je n'ai pas d'IST. Alors quoi? Que je tombe enceinte? Tu crois que c'est pareil pour toi que pour moi? Qui c'est qui aura ça dans la bide pendant 9 mois? Qui c'est qui va devoir supporter la culpabilisation de tous si jamais je décide d'avorter, hein? Toujours les mêmes qui encaissent. La vérité, c'est que tu t'en fous et que tu t'en foutras toujours parce que t'as pas d'utérus, mon gars.
C'est quoi les différences dans le rapport au latex selon les types de rapports? Elle ne s'était jamais posé la question quand elle faisait du sexe avec des filles. Jusqu'à ce que cette meuf-là lui pose plein de questions. Elle était super suspicieuse parce qu'elle savait qu'elle avait aussi des histoires avec des mecs. Elles ont fait des tests toutes les deux, ont cherché ensemble des trucs sur internet. Après, c'était plus détendu.
Lui a appris. Sur un code ou un vibro, on met une capote. Comme ça, si on le prête ou si on l'échange, c'est safe. Et là, elle regarde son vibro, tout biscornu, recouvert de cette peau blanchâtre, à moitié transparente et poisseuse. C'est vraiment moins sexy, et puis, en 2 temps 3 mouvements, à coup sûr, la capote va claquer. Elle ne sait pas si c'est la théorie de la capote qui est foireuse, ou le fait d'avoir acheté ce gode, biscornu, à branches multiples, violet et vert fluo. Les concepteurs de God sont des commerciaux, pas des fins connaisseurs du safe sex.
J'ai un truc pour mettre des capotes aux gars. D'abord, la plupart des mecs que j'ai rencontrés n'assument pas du tout de mettre un préservatif. Aujourd'hui, je veux me défendre contre les montées de stress et les boules au ventre que ça me donne. Alors, quand je sens que ça va déraper et qu'il va encore être incapable de gérer, j'ai élaboré ma technique d'attaque. Je t'explique. Tu l'allonges sur le dos tranquillement, avec des petits bisous dans le cou et une légère pression sur le torse. Tu peux aussi y aller un peu plus fort en le plaquant violemment sur le lit avec un regard de tigresse. Tu vas chercher le fameux petit bout de latex que tu ouvres, tout en poussant un rugissement, si tu es d'humeur féline. Lui, tu le surveilles. Il doit rester couché et ne pas bouger. Tu poses le bidule dans le bon sens sur le bout de sa bite et tu approches délicatement la bouche. Tu entr'ouvres et avec les lèvres, tu déroules tout doucement le plastique. Tu mets pas les dents, sinon il fait une drôle de grimace. Et surtout, tu ne seras pas arrivé à tes fins si tu déchires la fine membrane. C'est un peu gras et visqueux. Tu n'as pas besoin non plus de sucer vraiment. Un baiser appuyé avec la bouche, c'est suffisant. D'ailleurs, si tu enfonces trop loin, tu risques d'avoir envie de vomir et là, ça devient vraiment dégueu. Alors en général, c'est plus pratique de finir avec les doigts. Il peut quand même t'aider un peu. Et voilà, ça y est, c'est fait. C'est une technique parmi tant d'autres, mais je l'apprécie surtout car elle me permet de garder le contrôle. C'est moi qui décide qui et quand on met la capote.
Il n'y a pas de discussion ni de négociation possible. Tu t'allonges, tu bouges pas et tu mets ce truc-là de latex là. Enfin, ça marche très bien. Sauf toutes les fois où j'arrive pas à réveiller la tigresse en moi.
Alors c'est la fin de l'émission Dégenrée, maintenant c'est l'agenda, avec deux projections dans un cycle qui s'appelle...
Pas vu à la télé, c'est le lesbociné.
Alors une première projection le vendredi 21 mai, qui sera en non-mixité femme, gouine, trans et PD, du documentaire Le bal des chattes sauvages de Véronica Minder, qui a été fait en 2005 et c'est des témoignages de différentes lesbiennes en Suisse. Et de générations différentes. C'est vraiment très intéressant comme documentaire.
C'est vrai.
Et puis, une deuxième projection le dimanche 30 mai d'un film qui s'appelle Unveiled, d'Angelina Macaroni. C'est aussi de 2005 et c'est l'histoire d'une femme iranienne qui immigre en Allemagne, qui tente d'immigrer en Allemagne parce que elle est lesbienne et que elle a une relation avec une femme mariée en Iran et que elle est recherchée par la police là-bas. C'est une histoire un peu triste.
Mais c'est vachement bien aussi. Il était passé au festival de films gays et lesbiens il y a quelques années à Grenoble et il vaut vraiment le coup. Et il n'est pas facile à trouver, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir à cette projection.
Et voilà. La soirée, elle commencera à 19h avec un bar, un buffet, des infos kiosques, des zones de gratuité. Et puis, à 20h, il y aura la projection. Et ça sera à la Pelletueuse. C'est situé au 16 avenue Jules Vallès, à la limite entre Grenoble et Saint-Martin-d'Air. L'arrêt de tram le plus près, c'est Flandrin-Valmy du tram C.
Donc, le 21 mai, le bal des chattes sauvages. Et le 30 mai, Unveiled. Une autre info, ce vendredi, on sera le 14 mai, et à Antigone, dont on fait souvent la pub parce que c'est une bibliothèque, librairie associative, militante, qui est vachement chouette et qui a une programmation culturelle et politique de très grande qualité. Et donc ce vendredi, à 20h, il y a un spectacle qui s'appelle « Nous avons toutes la même histoire » par la compagnie Qu'est-ce que ça ? Voilà. Et toi, tu connais ce spectacle assez bien, tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, il a déjà eu lieu à Grenoble l'année dernière, ou l'année d'avant, voilà un an et demi. Et c'est, Et c'est un spectacle de danse avec en même temps le texte de la pièce de théâtre de Franck Aram et Dario Fo, vite fait. non, parce qu'on parle toujours de Dario Fo et jamais de Franck Aram, qui est « Nous avons toutes la même histoire » et ça parle du rapport à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, du fait de tomber enceinte et de l'éducation des petites filles.
Donc, un spectacle à voir à Antigone, 22 rue des Violettes, à Grenoble, arrêt du tram C, Valier-Calmette, je crois.
Ou Valier-Catane,
enfin. C'est dans ce coin-là. Et donc c'est à 20h ce vendredi. Et puis pour finir, on voulait quand même faire de la pub pour une émission de camarades. Parce que ça a un lien avec tout ce dont on vous a parlé ce soir. Si tout ce qu'on vous a dit là ce soir, ça vous pose question, si vous avez envie de préciser peut-être des choses, si vous avez des questions ou si ça vous donne envie de témoigner, et ben, il y a cette émission sur la même antenne, hein, sur Radio Kaleidoscope, qui est Calibre, qui est le jeudi soir, tous les jeudis, de 20h à 21h, et qui est justement une émission de libre antenne sur les questions de sexualité, de rapport au corps, et notamment de prévention, et qui permet à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de téléphoner à Radio Kaleidoscope pour pouvoir témoigner ou poser sa question et tout. Donc n'hésitez pas, C'est là pour ça. Calibre, donc tous les jeudis soirs sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et si vous voulez téléphoner, c'est le 04 76 09 09 09. Ouais. Voilà, c'était la petite page de pub quand même pour nos camarades de Calibre.
Et si vous n'avez rien à faire le jeudi avant l'émission de Calibre, il y a aussi la bibliothèque féministe située au 5 rue Bergson à la Capuche, au rez-de-chaussée. C'est de 16h à 20h.
Je crois qu'on a bien terminé notre émission. J'espère que ça vous aura nourri des réflexions de façon riche et passionnante. En tout cas, nous, on a trouvé ça très intéressant de préparer cette émission. Et pour finir, on va écouter une chanson qui a servi au premier montage. Alors, on va voir si vous reconnaissez. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas comme lien. Moi, personnellement, j'ai eu cette chanson dans la tête tout le long où je préparais cette émission. Alors, je me suis dit qu'il y avait du sens, quoi. C'est une chanson de Lassa, qui est une chanteuse qu'on aime bien à dégenrer. Et c'est une chanson... j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais c'est, vous allez entendre. À dans 15 jours.
À bientôt, au revoir.
Pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur, avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. J'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.